Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Au sommaire, la saison de la chasse a été exceptionnelle à Anticosti, la plus grosse île plantée au milieu du fleuve. Plus de 3000 chasseurs au rendez-vous.
La neige a fondu très rapidement sur l'île, c'est exceptionnel la vitesse que ça a fondu. Donc ça a eu un très bon impact sur la population de chevreuils. La mortalité était très basse, pratiquement nulle cet hiver. Puis ça a permis aussi pour les mâles d'avoir des beaux panaches qui n'ont pas été obligés d'aller gruger dans leur dernière énergie d'une fois qu'il fait un impact sur la grosseur des panaches. Donc cette année, on a des très beaux mâles sur le terrain. On voit aussi beaucoup de veaux.
Au Nouveau-Brunswick, la crise du logement précipite le départ de nouveaux arrivants.
La situation fait en sorte qu'ils doivent épuiser leur épargne assez rapidement en habitant Airbnb et hôtel. La recherche d'emploi est urgente. Il n'y a pas de place dans les garderies. Et donc, ça complique énormément la situation.
L'École nationale de ballet du Canada fait danser les aînés de Toronto et des environs.
Ça se voit tout de suite, le bénéfice de ça. Ça, dans la figure, il y a aussi un sens de calme qui rentre dans le cœur et dans le corps quand on commence à bouger. Et ça se voit tout de suite.
Et la ville d'Ottawa est devenue la capitale des criminels. Elle tient la tête de ce triste palmarès depuis 2 ans maintenant.
Il y a beaucoup de travail à faire au niveau soit de l'éducation, sensibilisation, dans les familles. Et la région d'Ottawa, c'est une région où les criminels sont les plus importants au Canada.
Ceci est un peu plus à Point de vue, l'info locale pour un auditoire national.
Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Merci d'être là. Les criminels sont en hausse au Canada et Ottawa ravit le titre peu enviable de capitale des criminels au pays. Selon Statistique Canada, le nombre de criminels n'a cessé de croître entre 2018 et 2021 dans toutes les provinces canadiennes. Face au fléau, le ministre canadien de la Sécurité publique, Dominique Leblanc, vient tout juste d'annoncer qu'il va consacrer 5 millions de dollars pour assurer la sécurité des groupes communautaires qui s'inquiètent de cette tendance, une tendance d'ailleurs que confirme le service de police d'Ottawa, qui rapporte aussi de son côté une hausse significative d'incidents motivés par la haine et les préjugés cette année. Christian Bergeron est sociologue et professeur à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Notre journaliste Marie Hillès l'a rencontré.
La ville où il y a le plus de crimes haineux au Canada est Ottawa. Ce sont les chiffres de Statistique Canada. En 2021, le taux était de 23 crimes haineux pour 100 000 habitants et ce chiffre est monté à 28 en 2022. La police d'Ottawa confirme que les crimes haineux sont à la hausse. Christian Bergeron est professeur à l'Université d'Ottawa à la Faculté d'éducation et il enseigne la sociologie. Le professeur s'intéresse depuis longtemps à la question du multiculturalisme canadien.
D'observer que les crimes haineux, c'est une tendance depuis 10 ans, qui sont constamment en hausse, et ils ciblent particulièrement les communautés juives, musulmanes, les Noirs, les communautés LGBT+, et même récemment chez les catholiques. Donc, les différents groupes, qu'ils soient minoritaires ou non, sont ciblés par les crimes haineux. Puis moi, ça m'interrogeait à savoir bien vers quoi on se dirige. Est-ce qu'on se dirige vers davantage de conflits au Canada ou est-ce qu'on... Le modèle du multiculturalisme canadien est à revoir, avec beaucoup d'interrogations, savoir est-ce que notre modèle fonctionne toujours bien sur l'inclusion de la diversité, puis comment c'est accueilli dans les communautés et comment ça se vit dans la région d'Ottawa. Donc, c'était ça l'idée, pour essayer de creuser la question, voir est-ce qu'on est à un tournant historique au Canada.
Il mentionne quelques chiffres.
La valeur du multiculturalisme canadien est approuvée par 92 % de Canadiens, mais avec le conflit en cours entre Israël et la Palestine, il y a environ 50 % de Canadiens qui disent maintenant, bien là, maintenant, l'immigration doit intégrer nos valeurs, même renoncer à certaines valeurs et même expulser du pays, là, je pense que c'était 75 % expulser du pays ceux qui ont manifestent des crimes haineux envers quiconque.
Le professeur explique ce qu'il observe.
Mais moi, je critique plus le modèle du multiculturalisme qui s'est institué au Canada. Puis je crois qu'il faudrait le revoir. Parce que d'un côté, on a la loi sur le multiculturalisme qui valorise la diversité avec raison. Mais en face, vous avez les criminels qui rejettent cette forme de diversité. Donc, il y a beaucoup de travail à faire au niveau soit de l'éducation, sensibilisation dans les familles, qu'il faut le faire parce que sinon, bien, les réponses vont être encore plus de criminels. Où vous allez avoir des opinions, soit fascistes ou extrême droite, pour dire qu'il faut arrêter totalement l'immigration. Ça va engendrer d'autres persécutions envers d'autres groupes minoritaires qui sont déjà persécutés. Donc, ça, faudrait pas que ce conflit-là serve d'assise pour pouvoir établir d'autres formes de relations ou de légitimisation de la violence ou de criminels, comme que malheureusement en ce moment. Et la région d'Ottawa, c'est une région où les criminels sont les plus importants au Canada. Donc, depuis 2 ans, c'est la, malheureusement, l'expression consacrée, c'est la capitale des criminels.
Pour terminer, il propose une solution.
S'assurer que la réciprocité soit des deux côtés. Donc là, par exemple, au niveau du multiculturalisme, bien, l'a priori dans le multiculturalisme, c'est aux Canadiens à s'adapter, à être inclusif. Là, on voit dans l'actualité, puis on voit au niveau des criminels, puis on voit un peu ce qui se passe, puis on se dit, là, ça change. Donc là, faut cibler également dans les différentes populations qui viennent vivre au Canada, et voici c'est quoi nos valeurs ici, comment qu'on vit, etc. Pour pas que ça soit juste le poids du multiculturalisme soit porté juste par une population. Donc, c'est une responsabilité collective. Je crois qu'on n'a pas assez mis l'effort sur cet aspect-là. C'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce modèle-là. Lorsque je parle de le réviser, c'est justement de regarder qu'est-ce qui peut être fait au niveau de la valeur multiculturaliste.
C'était une entrevue de Marie Hillès dans le cadre du programme IJL.
Bonjour, ici Adèle d'Halifax en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue.
Et des efforts sont déployés partout au pays pour désamorcer les tensions et les incompréhensions entre les Canadiens d'origine diverse. Dans l'Est ontarien, notamment dans le comté de Prescott-Russell, le Centre de services à l'emploi du comté propose aux employeurs de la région des formations gratuites de sensibilisation à la diversité et à l'inclusion dans l'Est ontarien. Le centre, qui bénéficie d'un appui de 50 000 $ du ministère des Affaires francophones de l'Ontario pour les dispenser, ces formations qui portent notamment sur la gestion inclusive des ressources humaines, la diversité des talents, sur l'amélioration de la performance des entreprises, l'objectif sous-entendu étant par ailleurs de trouver évidemment des solutions à la pénurie de main-d'œuvre que subissent les entreprises de la région. Notre nouveau collaborateur Guillermo Tolosa, posté à Cornwall en Ontario, en discute avec Carole Muise, gestionnaire de communication pour les centres de services à l'emploi de Prescott Russell.
Nous, à chaque année, on va regarder un petit peu, tu sais, comme les tendances du marché du travail, puis où on pourrait aider nos employeurs à mieux performer avec leurs équipes. Cette année, les formations sont vraiment axées pour la diversité et l'inclusion. Puis ça, bien évidemment, je pense que c'est plus un secret pour personne. On est en pénurie de main-d'œuvre très sévère. Oui. C'est comme on sait, on cherche tous des travailleurs. La diversité et l'inclusion, ça devient de plus en plus important d'être capable de bien intégrer, comme par exemple les personnes qui vivent en situation de handicap ou encore c'est les personnes, les nouveaux arrivants aussi, parce qu'on sait que cette nouvelle clientèle-là, on en a besoin pour pouvoir appuyer nos employeurs dans leurs entreprises. Et aussi, ben c'est sûr que des fois, ça demande de s'adapter un petit peu. Donc, les formations sont vraiment pour équiper nos employeurs à ce niveau-là, tu sais, leur donner des trucs, comment on peut faire, comment... Puis le centre, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille au niveau de la diversité et de l'inclusion. Aussi, cet été, on a développé un concept de champion de la diversité et de l'inclusion. Puis ça, c'est des employeurs locaux qui, eux, embauchent déjà des personnes qui vivent en situation de handicap et des nouveaux arrivants. Fait qu'ils nous parlent un petit peu de leurs expériences, tu sais, comme puis des bénéfices aussi, parce qu'il ne faut pas se le cacher, là, il y a énormément de bénéfices. Ces gens-là ont beaucoup à donner à nos entreprises et à nos communautés. On est rendu à un point où nos employeurs nous appellent, puis c'est autant avant, on poussait pour le CV, puis ses préparations, tout ça, puis on le fait encore, mais c'est rendu à un point où l'employeur nous dit, ben écoute, s'il y a deux bras, une tête, puis deux jambes, moi je veux.
Ouais, c'est
on
ça.
On est rendu à ce point-là. C'est vraiment, généralisé. Il n'y a pas de secteur plus en demande que d'autres. On sait la santé, tout ça, mais tous les secteurs ont besoin de soutien. Là. On va continuer le processus parce qu'on veut que nos employeurs soient fiers puis qu'ils veulent intégrer ce genre de personnes. Tu sais, les personnes qui vivent en situation de handicap.
Oui, bien
puis
sûr.
Aussi les personnes, les nouveaux arrivants. Puis ces personnes-là ont beaucoup, beaucoup à amener, comme je vous disais plus tôt.
Bien, écoutez, comme vous avez dit, c'était la quatrième année que vous receviez la subvention de 50 000 $ puis on va vous en souhaiter une autre, une cinquième pour l'année prochaine, 2024.
Je vous remercie beaucoup. Puis, comme je vous dis, allez voir sur le site du centre pour avoir voir les vidéos. Puis, il y a même, en plus des employeurs qui nous parlent, on a aussi les personnes immigrantes et les personnes qui vivent en situation de handicap qui nous parlent de qu'est-ce que ça a été pour eux, l'intégration dans la région et tout ça. C'est vraiment des très, très belles, des beaux témoignages à consulter.
Bien, ça va être avec plaisir, Mme Mews. Puis, je vous remercie de votre temps et je vous souhaite une très belle journée.
Merci.
Alors, c'était Mme Carole Mews, gestionnaire des communications pour le Centre de services à l'emploi de Prescott Russell.
Ici Camille Dany, à Plamondon, en Alberta. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur x@canada_lji.
Et s'il y a une clientèle que la crise du logement frappe de plein fouet, ce sont bien les nouveaux arrivants. Ils sont d'ailleurs nombreux dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick à capituler et à quitter la région, tant les logements se font rares. C'est ce que constate le Centre de ressources pour les nouveaux arrivants du nord-ouest de la province. La crise est si sévère que la municipalité d'Edmundston envoie même des signaux de fumée au fédéral pour qu'il lui attribue les fonds nécessaires pour lancer la construction de nouveaux logements dans la région. Michael Robitaille est à Edmundston. Il a recueilli les commentaires de Normand Bourdeau, directeur du Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest.
Que parmi les difficultés que les nouveaux arrivants ont en arrivant ici, souvent ils n'ont pas de contact. Donc, déjà, le bouche-à-oreille qui peut aider n'est pas présent dans leur cas. Et ils arrivent ici, doivent se mettre à la recherche d'un logement pendant qu'ils demeurent dans un logement temporaire. Donc, il y a une certaine urgence à trouver le logement en premier. Leur situation fait en sorte qu'ils doivent épuiser leur épargne assez rapidement en habitant Airbnb et hôtel. Il y a aussi le coût et la taille des logements disponibles. Donc, il y a des gens qui arrivent ici en tant que résidents permanents et vont arriver ici avec leur famille. Ils vont être deux adultes, trois, quatre, cinq enfants. Et donc, ça prend un logement assez grand avec des coûts assez élevés. Et lorsqu'ils arrivent ici, ils n'ont pas encore de travail généralement. La recherche d'emploi est urgente. Il n'y a pas de place dans les garderies, ce qui fait en sorte que souvent, il y en a seulement un des deux qui peut travailler, pas les deux. Et donc, ça complique énormément la situation.
Puisqu'ils ne peuvent pas se trouver d'endroit pour vivre dans un délai raisonnable, certains doivent donc quitter la région.
Malheureusement, on a perdu des nouveaux arrivants dans les derniers mois qui sont arrivés ici avec l'intention de s'établir au Nord-Ouest. Et qui, malheureusement, n'ont pas trouvé de loyer. Et ils ont quitté soit pour le sud de la province, soit pour le Québec. Donc, c'est malheureux, comme vous avez mentionné. On est à la recherche de travailleurs. Les gens veulent venir ici. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours pour eux. Si on prend, par exemple, dans le cas des travailleurs étrangers temporaires qui arrivent ici, dans leur cas, ils n'ont pas droit à l'allocation familiale pour enfants avant 18 mois après leur arrivée. Donc, s'ils arrivent ici avec leur famille, doivent faire vivre leur famille, ils ont souvent un seul salaire. On n'entendait pas ce problème-là il y a encore quelques années. Mais là, avec l'augmentation importante de nouveaux arrivants dans la région, c'est une situation qui est plus fréquente.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Suivez-nous sur x@canadalji.
Prenons une petite bouffée d'air frais pour se rendre sur la côte nord du Québec où nous attend Raphaël Hensley-Vincent qui a sorti sa tenue de camouflage pour nous parler de la saison de chasse aux cerfs de Virginie sur l'île d'Anticosti et qui vient de se conclure. Une saison de chasse qui s'est avérée exceptionnelle, nous apprend-on, grâce au printemps hâtif, à la fonte rapide de la neige et à un taux élevé de survie des faons. La population de cerfs de Virginie a prospéré en 2023 sur la plus grande île du Saint-Laurent. Nul doute que cela fait le bonheur des adeptes de la chasse, entre le 26 août et le 7 décembre, les autorités de la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC, prévoyaient accueillir 3000 chasseurs sur son territoire. Eh bien, l'objectif a été atteint 2 mois avant l'échéance, sa meilleure performance en 5 ans. La chasse est une pratique de subsistance bien ancrée chez les résidents et résidentes de Port-Meunier, le seul village de l'île, mais aussi chez les anticostiens d'adoption qui s'y sont initiés. Raphaël Hensley-Vincent a pris la voie du large et s'entretient d'abord avec le responsable des opérations de la CEPAC à l'île d'Anticosti, Philippe Lachapelle.
On a eu un printemps très hâtif. La neige a fondu très rapidement sur l'île. C'est exceptionnel, la vitesse a fondu. Donc, ça a eu un très bon impact sur la population de chevreuils. La mortalité était très basse, pratiquement nulle cet hiver. Puis ça a permis aussi pour les mâles d'avoir des beaux panaches qui n'ont pas été obligés d'aller gruger dans leur dernière énergie d'une fois qu'il fait un impact là, sur la grosseur des panaches. Donc cette année, on a des très beaux mâles sur le terrain. On voit aussi beaucoup de veaux, des petits de l'année. Donc ça prouve que l'hiver a été bon, les femelles n'ont pas avorté durant l'hiver. Donc on a une très bonne population. Puis le succès de chasse est très élevé. La grandeur de l'île s'est généralisée. Autant les gens du village, autant les gens qui chassent partout là, sur l'île. Sont tous d'accord, là, puis on rentre dans le rut. Donc, le gros de la saison, là, pour les gens qui chassent des trophées ou des belles cornes, là, on rentre dedans, puis ça regarde très bien.
Donc, la majorité des chasseurs et chasseuses venus abattre leurs 2 cerfs auxquels leur autorise leur permis proviennent du Québec et une minorité des États-Unis ou de l'international. En famille ou entre amis, il s'agissait d'une première expérience à l'île pour certains, mais d'un énième retour pour d'autres.
Non, on est des amis entre amis.
OK.
OK. Puis pour la chasse, ça fait la troisième fois.
Troisième fois.
Oui, convient. C'est bien.
Puis vous avez des bonnes chasses habituellement?
À date, on a pas mal de taureaux complet. On est venu l'an passé, au mois de décembre.
Okay.
Et puis la chasse n'était pas très bonne. Fait qu'on nous a offert de revenir. On va faire l'expérience de l'île. Fait que là, on a hâte de voir.
C'est mon beau-père.
Ah oui, il y a un petit lien familial.
C'est mon beau-père. Okay, vous, c'est la première fois en tout cas ici.
C'est ça.
Puis qu'est-ce qui vous amène ici?
Il va faire ça, lui, à un moment donné. Il dit, check nous autres, je dis, OK.
Je pense que c'est de le voir une fois dans sa vie. Là, on entend beaucoup parler, mais de pouvoir dire aux gens, j'ai déjà été, j'ai vu c'était quoi les chevreuils dans le village de Port-Meunier qu'on peut approcher. C'est un petit peu ça, là, vivre la chasse en groupe, là, allumer une poêle à bois le soir et se raconter des histoires de chasse passée ou vécue là, dans la journée même. Je pense que c'est ça que les gens recherchent aussi au-delà de la chasse. Là, c'est la nature.
C'est des belles activités. Hein?
Depuis les années 1980, il y a une portion aussi du territoire de l'île située dans la pourvoirie du lac Geneviève, à proximité de Port-Meunier, qui est réservée aux résidents et résidentes de la municipalité. Donc, si la chasse est une pratique communautaire qui est bien ancrée à Port-Meunier, des nouveaux arrivants adoptent aussi ce mode de vie. Renaud Lalonde-Dolbec, que j'ai rencontré à Port-Meunier, enseigne à l'école Saint-Joseph d'Anticosti. C'est un Montréalais d'origine qui s'est établi avec sa conjointe sur l'île il y a 3 ans. Il me confie que jamais il se serait imaginé pratiquer la chasse dans sa vie d'avant, mais qu'à Anticosti, ce savoir-faire fait partie de leur vie présentement.
On a été introduit à la chasse par nos voisins. Ici, c'est quelque chose de très communautaire et les gens aiment beaucoup partager leur expertise. Donc, on a eu beaucoup de chance. Nos voisins nous ont prêté une carabine dès la première année. On a fait nos cours et on a été traînés à la chasse, même ma copine, par d'autres amis avant que j'arrive. Et ici, c'est un processus particulier. Là. On fait toute la démarche de la récolte dans la forêt jusqu'au dépeçage dans ton chai de la maison. Donc tu dois prendre chaque étape. Puis vraiment les gens du village ici m'ont énormément aidé. Et c'est une expertise maintenant que je trouve vraiment, vraiment utile. On a de la bouffe toute l'année. On n'a pas besoin d'acheter de viande rouge. On a cette liberté de pouvoir prendre notre arme, la mettre dans la voiture, partir pour 5 minutes de char, puis tu peux te mettre à marcher puis à chasser, ou le soir après l'école, je pars. Plus l'année va avancer, plus ça va être dur, là, il va faire noir plus tard, mais pour l'instant, j'ai encore 1h30, 2h après l'école pour aller chasser. Donc ça, c'est vraiment un petit plaisir, là, après le travail, de partir à la chasse. Tu sais.
Donc, à la pourvoirie de la CEPAC, la saison de la chasse s'est clos hier, le 7 décembre. Joint par téléphone, le directeur des ventes et responsable du service à la clientèle, Daniel Lévesque, n'avait pas encore accès aux données compilées par le ministère, mais il pouvait confirmer que la saison 2023 avait été exceptionnelle.
Très, très bonne saison de chasse. La meilleure des 5 dernières années. Il s'est récolté des très beaux mâles tout au long de la saison. C'est quand même, les guides, de façon générale, le disent. Là, il y en a qui sont ici depuis des années, puis ça fait des années qu'ils n'ont pas vu ça, là, des aussi belles récoltes là, en 2023. Le cheptel est en santé. Puis pour vous donner une idée, même au mois de novembre, là, on a eu trois vols, là, que puis même à Portmeny aussi, mais dans le secteur Est particulièrement, là, on a eu un overflow de poids. Là, j'étais pas capable de tout embarquer tellement que les gens avaient des beaux trophées. Fait qu'ils gardaient les têtes et la peau complète pour les faire taxidermiser, si vous voulez. Là. Que j'avais un surplus de poids que j'étais pas capable de mettre sur l'avion. Incroyable.
Donc déjà, la qualité de cette saison qui se termine se reflète dans le taux de réservation de rebooking pour l'an prochain, explique-t-il. Pour les résidents et les résidentes de Portmeny, la saison de la chasse n'est pas encore terminée et se prolongera jusqu'à la fin du mois de décembre. L'anticosticien d'adoption Renaud Lalonde-Dolbecq relatait avoir découvert à Portmeny la chasse de Noël.
Donc aussi, ça c'est une tradition pour certaines personnes du village de se faire une chasse de Noël le 24, puis de partir dans les bois à la veille de Noël pour revenir avec un chevreuil. Donc on a une très très grande période de chasse, on a un gros quota, on peut finir avec finalement plus d'une dizaine de chevreuils si tu chasses en exclu aussi.
Les résidents et résidentes d'Anticosti ont encore quelques jours, une semaine et demie environ d'ici Noël pour remplir leur congélateur pour l'année à venir.
Merci Raphaël.
Suivez-nous sur X, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Et pour conclure cette édition de Point de vue, on retourne en Ontario, direction Villeraine, où l'École nationale de ballet du Canada fait des pieds et des mains pour faire danser les aînés, même assis à leur chaise. L'École nationale de ballet qui participait au premier salon de Vie active pour les aînés, organisé par le Centre Vie active, des centres d'accueil héritage, résidents comme visiteurs ont pu profiter d'une journée complète d'activités, de même qu'à des ateliers animés donc par l'École nationale de ballet du Canada. Caroline Niklas Gordon a proposé aux aînés des instants de danse adapté à toutes les capacités physiques. Marie Notogali était sur place.
Donc, on arrive vers la fin de cette journée-là. Encore quelques minutes de patience, on va doucement.
C'est un salon de la vie active pour les aînés.
Participation, il y en a parmi vous qui sont là depuis ce matin, qui ont passé toute la journée.
Fabien Schneider, directeur adjoint des centres d'accueil héritage.
En fait, c'est une sorte de porte ouverte qui essaye d'ouvrir au public, donc les gens de plus de 55 ans francophones, de les informer en regard des activités qu'on peut leur proposer de manière à rester actifs, contents au quotidien. Ouais, ce qu'on a fait aujourd'hui avec des activités assez diverses. On a utilisé tout le rez-de-chaussée de notre bâtiment qui est dédié aux activités sur salle de jour, qui accueille des gens de l'interne ou de l'externe pour s'en occuper durant la journée, mais aussi la salle à dîner et d'autres salles d'activité. Donc on a eu environ... 14 exposants qui sont venus. Et puis, on a eu des sessions toute la journée. Donc, on a eu dramathérapie, on a fait de la musique-thérapie, on a parlé de santé cérébrale, on a parlé juridique. On a eu la Farfo qui a fait une présentation. Et puis, voilà, vous avez vu tout à l'heure l'École nationale de danse qui nous a fait une super session pour finir.
On vient de l'École nationale de ballet. Et on va pas faire du ballet, on va faire du mouvement créatif dans nos chaises. Alors vous êtes déjà prêts ? Hein ? On est bien prêts, hein ? Et vous savez, moi, la langue du corps, c'est une langue universelle. Hein ? On peut tous parler la danse. Alors même si on parle pas la même langue, on parle la même langue avec nos bras et nos figures. Et nos jambes. Alors, on va prendre juste un moment pour se voir un petit peu. Je vais mettre la musique parce qu'on va avoir de la musique. Ça aide toujours, hein? Bravo. Alors, la musique que vous allez entendre, c'est l'un de nos pianistes à l'école, Craig Wingrove. Il est fantastique. On va commencer juste par se dire bonjour. Choisissez quelqu'un dans la chambre. C'est ça. Et on se regarde bien dans les yeux, ça fait du bien.
On a développé un programme à travers Baycrest qui donne l'opportunité aux aînés de bouger, surtout quand ils sont dans un endroit où ils sont assez isolés.
Caroline Nicolas-Gordon, École nationale du ballet du Canada.
Alors, on essaye de vraiment continuer à leur amener des opportunités où ils peuvent développer, continuer à développer leur personnalité et bouger pour pouvoir articuler pour la santé cognitive, physique et de l'esprit. Alors, on veut aussi que ça leur donne une qualité de vie qui continue à grandir au lieu de diminuer.
Et là, on est dans une salle d'accueil, une salle commune. Comment vous allez faire concrètement? Quels sont les gestes que vous allez faire?
Ben, on va commencer aujourd'hui doucement parce qu'on est là depuis ce matin. Alors, ils sont sûrement un petit peu fatigués, mais maintenant, ils ont beaucoup écouté. Je pense qu'ils vont vraiment être contents d'avoir un peu de mouvement. Et on a de la musique. Alors, la musique, ça aide toujours, ça stimule un autre centre dans notre cœur et dans notre mémoire et tout ça. Je pense qu'on va juste essayer de bouger, de plus écouter tellement. Et parler avec le corps et le langage universel qui est le mouvement.
Pourquoi sur chaise?
Ça aussi, ça, c'est un peu plus universel, comme ça tout le monde peut le faire. Parce qu'il y a des gens qui ont des limitations physiques. Alors au moins, comme ça, tout le monde peut participer s'ils sont assis. Et ça se voit tout de suite, le bénéfice de ça. Ça, dans la figure, il y a aussi un sens de calme qui rentre dans le cœur et dans le corps quand on commence à bouger. Et ça se voit tout de suite.
Faire bien fort. Et après, une fois qu'il n'y a plus de nuages, on va aller à l'eau. Et on va voir si l'eau est froide ou elle est chaude. Alors on va essayer de mettre juste nos orteils pour voir si l'eau est prête pour nous. Pour aller nager, ça fait du... Et puis après, on ira nager. C'est ça. On y va. On prépare à bouger ces nuages. On est prêt. Et on les pousse. On met un peu d'effort. C'est ça. On les pousse. Et je pense que je vois l'arc-en-ciel. Prenez vos couleurs.
J'étais ici à 10h.
Vous avez appris, vous avez fait quoi en particulier?
Ah bien, c'est ça, j'ai écouté et j'ai appris beaucoup de choses. C'était très intéressant. La dernière télé, c'était le ballet. On a dansé le ballet. Moi, j'avais ma vadrouille, puis ma brosse, puis on a dansé le ballet. Je viens ici pour la dramathérapie et voir mes amis.
Et sa vie était... Volontaire ici.
Bénévole.
Bénévole, pardon.
Mais c'est avantageux parce que je connais beaucoup de monde qui habite ici.
Voilà, c'est déjà tout pour nous cette semaine. Un gros merci à nos journalistes Guillermo Tolosa, Marie Hilès, Marine Otogali, Michael Robitaille et Raphaël Hensley-Vincent, coordonnateur national Stéphane Bénard. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici, Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Vous dire rapidement qu'on aura de bonnes nouvelles pour vous la semaine prochaine et peut-être une nouvelle peau. Oui, on fait peau neuve. On vous dira comment. Merci d'être là. On apprécie votre compagnie. Restez à l'écoute de l'émission qui suit. Ciao!
reportages sur canada-info.ca.